France Inter.
Et voici le 13-14, Christelle Rebière.
Bonjour à tous, au sommaire de ce jeudi 17 avril. La chute d'une icône et le silence d'une institution, le Vatican savait pour les agressions sexuelles de l'abbé Pierre depuis 1955. Pas de réaction officielle ce matin à Rome. L'Ukraine au menu du déjeuner à l'Elysée entre Emmanuel Macron, le secrétaire d'État américain et l'envoyé spécial de Donald Trump. L'Union européenne cherche à tout prix à être partie prenante des négociations. Israël qui remodèle la bande de Gaza, 30% du territoire est devenu une zone tampon. La grippe particulièrement sévère cet hiver, plus précoce, plus longue, plus virulente. Elle a fait 5000 morts cette année, Victor Dolan.
Oui, et près de 30 000 hospitalisations. On se situe dans une fourchette haute, la plus forte épidémie depuis la crise sanitaire du Covid. Je vous en expliquerai les raisons. Il y a notamment la co-circulation de 3 souches de la grippe cette année. Et là aussi, c'est très rare pour le noter.
Quel lien entre les attaques contre les prisons? La boîte aux lettres d'une agente pénitentiaire d'Amiens a été taguée, mais la nuit a été globalement plus calme. Dans ce journal aussi, quel contrat d'électricité choisir pour le meilleur prix? 60 millions de consommateurs publient un comparatif, Théo Metton-Regimbaud.
Et nous verrons que l'on peut faire plus de 200 euros d'économie par an en changeant de contrat. Il ne faut pas être fidèle à son fournisseur. C'est le message de l'association, nous l'entendrons.
Un pack sous la neige dans les Alpes de la Poudreuse, en masse, mais gare aux avalanches. Jules César raconté en BD est finalement très contemporain. Et l'empereur de Roland-Garros, un hommage spécial sera rendu à Raphaël Nadal en ouverture du tournoi fin mai. Hommage spécial aussi à Richard Gasquet et Marie Pierce. À 13h30, on va se partager la route en bonne intelligence à quelques heures du grand chassé-croisé des vacances de Pâques. Une pilote de moto qui fait les championnats du monde, Ornella Ongaro, viendra donner des conseils pour les deux roues. Elle est la nouvelle ambassadrice de la sécurité routière. Nous verrons par exemple quelles sont les règles pour la circulation interfile. Vos questions, bien sûr, 01 45 24 7000. Pâques, c'est aussi le chocolat. Et c'est la France va nous faire savourer notre feuilleton sur les petits bals de moins en moins populaires. Et c'est une chanson spéciale Brel, l'actrice Brigitte Fossé a choisi le plat pays. Soyez les bienvenus, nous sommes ensemble jusqu'à 14h.
Inter.
Jusqu'où iront les révélations sur l'abbé Pierre? Le Vatican savait pour les agressions sexuelles, le pape l'avait reconnu depuis 2007, mais il savait depuis beaucoup plus longtemps que ça, dès l'automne 1955. C'est ce qui ressort d'un livre-enquête publié aujourd'hui par la journaliste de France Inter, Laetitia Chérel, et par Marie-France Etchegouin. Une procédure judiciaire avait même été réclamée alors par le Saint-Siège, à laquelle l'évêque de Versailles n'avait pas donné suite. Elles ont consulté les archives du dicastère pour la doctrine de la foi. Le Vatican aurait donc étouffé l'affaire. Bonjour Bruno Duvic.
Bonjour.
Correspondant de France Inter à Rome. Et ce matin, pas de réaction du Vatican?
Pas de réaction officielle, non, pour l'instant, malgré plusieurs demandes. Alors, la période particulière accroît sans doute la force d'inertie. On est en pleine semaine de Pâques avec un pape convalescent après une hospitalisation de plus d'un mois. Et c'est vrai aussi que l'abbé Pierre est d'abord une figure française qui n'a pas à Rome la célébrité qu'il a à Paris. Mais la question qui est posée au Vatican ce matin, posée notamment par la conférence des religieux et religieuses de France, c'est celle de l'ouverture des archives récentes du Saint-Siège. Les informations que nos consoeurs déniché se trouve dans les archives sur le pontificat de Pie XII, pape pendant la Seconde Guerre mondiale et jusqu'en 1958. Est-ce que le Vatican va accepter de laisser journalistes, chercheurs étudier des documents plus récents ou à minima mener lui-même une enquête? Rien ne l'indique pour l'instant. On sait un peu plus avec ce livre qu'il y a des choses à trouver, si on le veut. En septembre dernier, François avait été interrogé sur l'abbé après la deuxième série de révélations sur ses méfaits. C'était à son retour d'un voyage en Asie. Oui, on connaissait ses agissements au Vatican, avait-il répondu, en ajoutant cette précision. Après sa mort, c'est sûr, avant, je ne sais pas, l'idée de faire des recherches ne m'est jamais venue à l'esprit. Le pape avait également dit, nous devons parler clairement dans ces affaires, ne pas cacher. Eh bien, l'occasion lui en est offerte de manière plus pressante avec la publication de ce livre.
Bruno Duvic en direct de Rome. On est complètement halluciné. On découvre un homme qui était un grand malade mental, disait ce matin sœur Véronique Mardron, théologienne, pardon, est présidente de la Conférence des religieux et religieuses de France, ajoutant « C'est sûr que l'Église doit rendre des comptes, Emmaüs peut-être aussi, ou les deux, et elle réclame l'ouverture des archives. » Enfin, dans ce livre-enquête intitulé « L'abbé Pierre, la fabrique d'un saint », on découvre aussi l'antisémitisme d'Henri Grouès, des propos tenus sur les Juifs le 21 juillet 1944. Il évoquait, je cite, « des familles contraintes à l'oisiveté, mais regorgeant d'or, avec quoi elles raflaient tout ». C'est une réunion qui ne figurait pas sur leurs agendas. Marco Rubio, le secrétaire d'État américain et l'envoyé spécial de Donald Trump, Steve Witkoff, déjeunent à l'Élysée. Il sera surtout question de l'Ukraine. Volodymyr Zelensky réclame à distance de mettre la pression sur, je cite, « les tueurs russes ». Le président américain, depuis le début de ses consultations, écarte soigneusement les Européens, Frédéric Saez, et ils s'appliquent, eux, à revenir dans le jeu.
Oui, les Européens, au mieux ignorés, au pire méprisés, exclus des négociations de Jeddah en Arabie Saoudite, où les Américains jouent les médiateurs entre Russes et Ukrainiens, négociations qui patinent depuis deux mois. Alors l'Élysée veut croire que cette rencontre permettra de peser davantage. Paris a d'ailleurs aussi convié des émissaires britanniques, allemands et le directeur de cabinet du président ukrainien Zelensky. Tous doivent retrouver, après le déjeuner à partir de 15h, le chef de la diplomatie américaine et l'envoyé spécial de Donald Trump, toujours à l'Élysée. Parmi les discussions, l'hypothèse d'une force européenne en Ukraine pour garantir un éventuel cessez-le-feu, une hypothèse que l'Américain Steve Witkoff, l'un des deux convives du jour, avait déjà balayé, qualifié de posture absurde, lui qui a rencontré Vladimir Poutine il y a moins d'une semaine à Saint-Pétersbourg. Les Européens ont aussi noté que Washington alterne les messages contradictoires. Un jour, Donald Trump accuse l'Ukraine d'avoir déclenché la guerre, un autre jour, il reproche à Vladimir Poutine de traîner en longueur et le menace de sanctions. Souvent, avec Trump, observe un diplomate européen, c'est le dernier qui a parlé, qui a raison. Raison de plus pour faire valoir ses positions.
Frédéric Saïs, et signe que cette réunion dérange, le Kremlin réagit ce matin et accuse les Européens de vouloir poursuivre la guerre. Les villes ukrainiennes sont quasi quotidiennement la cible de frappes russes. Ce matin encore, une attaque de drones qualifiée de massive a fait 3 morts et 30 blessés, dont 5 enfants, à Dnipro, dans l'est de l'Ukraine. La première ministre italienne, elle, est à la Maison-Blanche. Giorgia Meloni, que Trump qualifie de leader fantastique, mais qui n'épargne pas avec ses droits de douane. Elle entend défendre les intérêts commerciaux et stratégiques de l'Union européenne. La Chine, elle, est toujours en plein bras de fer avec les États-Unis, un marché de 500 milliards de dollars, et ça plombe le moral des exposants à la gigantesque foire de Canton dans le sud du pays. Sébastien Berriot s'y est rendu pour France Inter.
Donald Trump est un adepte des parties de golf et c'est le cas aussi pour beaucoup d'Américains. Dans les allées de la foire, cette entreprise de la province du Guangdong dévoile ses dernières voiturettes pour les golfeurs. Les États-Unis ont toujours été de gros clients, mais avec les nouveaux droits de douane à 145%, ce sera compliqué de vendre. Le prix du véhicule va passer de 4 000 à 9 800 dollars. La patronne espère trouver des solutions.
Les États-Unis représentent le marché où la demande pour ce type de véhicule est la plus forte. En raison des droits de douane, les exportations ont déjà diminué. Mais nous allons discuter encore avec nos clients pour voir comment on peut gérer la situation. Même si, pour l'instant, je n'ai vu aucun acheteur américain, alors qu'il y en avait beaucoup les années précédentes à la foire.
Juste à côté, cette usine de Hangzhou, près de Shanghai, fabrique des quads agricoles qu'elle vendait jusqu'ici aux fermiers américains. Elle envisage de délocaliser sa production loin de la Chine.
Nous allons essayer d'exporter nos produits vers les États-Unis depuis le Mexique. Nous avons une usine là-bas et nous allons mettre la capacité de production dessus.
Certaines usines ont décidé de ne pas envoyer cette année ici à la foire de Canton leurs équipes marketing spécialisées sur le marché américain, devenu très hypothétique.
En France, le groupe de luxe Hermès prend les devants pour compenser les droits de douane de 10%. Il va augmenter ses prix au mois de mai aux États-Unis. Il entend compenser intégralement ce surcoût. Hermès qui vient de ravir à LVMH la place de première capitalisation du CAC 40 à la Bourse de Paris. Le groupe LVMH lui tient son assemblée générale ce matin. Et Bernard Arnault pourra rester à la tête du groupe jusqu'à 85 ans s'il le souhaite. Les actionnaires ont approuvé le report de l'âge du PDG à plus de 99%. Il a actuellement 76 ans. Quant à la Banque Centrale Européenne, elle devrait ramener son taux principal à 2,25%. Ce serait la 7e baisse depuis juin 2024. L'idée, c'est de stimuler l'investissement des entreprises et des particuliers, rendre l'argent moins cher pour affronter cette guerre commerciale. Des tentes de déplacés visées par des raids israéliens dans la bande de Gaza. Il y a au moins 25 morts, dont des enfants, d'après la défense civile locale. Depuis le 18 mars, les bombardements s'intensifient, les opérations terrestres s'élargissent et l'armée israélienne redessine véritablement la géographie de l'enclave palestinienne. Michel Paul, vous êtes à Jérusalem pour France Inter et la zone tampon décrétée périmètre de sécurité par Israël représente maintenant 30% de l'enclave.
C'est un périmètre de sécurité sur environ 30% de la bande de Gaza. Alors il s'agit, expliquent les militaires israéliens, d'une zone tampon où la population palestinienne ne pourra plus vivre. Pour le ministre israélien de la Défense, contrairement à ce qui a eu lieu dans le passé, l'armée israélienne ne quittera pas ces zones qui ont été saisies depuis la reprise des combats le 18 mars dernier. Sur son compte X, Israël Katz souligne qu'il s'agit de zones tampons entre l'enclave palestinienne et le territoire israélien qui resteront en place dans toutes les situations, qu'elles soient temporaires ou bien permanente. Israël, a encore indiqué le ministre, entend également poursuivre le blocage hermétique de l'aide humanitaire à destination de Gaza. Le ministère de l'Information sous contrôle du Hamas alerte sur l'effondrement humanitaire complet de l'enclave palestinienne. Selon une évaluation sécuritaire israélienne citée par la télévision publique israélienne, Kan 11, les réserves alimentaires à Gaza seront épuisées d'ici un mois. Jérusalem, Michel Paul, RFI, pour France Inter.
Emmanuel Macron entamera lundi un déplacement de 5 jours à Mayotte pour faire le point sur la reconstruction de l'archipel ravagé par le cyclone Chido. Il se rendra ensuite à La Réunion, Madagascar et à l'île Maurice. En France, la nuit a été plus calme. Pas de voitures brûlées ni d'attaques contre les prisons. Mais la boîte aux lettres d'une agente pénitentiaire de la maison d'arrêt d'Amiens a été ciblée. Ses pneus crevés. Des rondes ont été mises en place autour de certains centres pénitentiaires. Pour l'instant, le parquet national antiterroriste indique qu'aucune piste n'est privilégiée en attendant les expertises techniques. Bonjour Emmanuel Leclerc.
Bonjour.
Alors qui peut être capable de monter une chaîne Telegram, d'avoir un réseau de complicité? C'est de ce côté-là que s'oriente l'enquête.
Alors tout est possible, a répété ce matin effectivement le procureur de la République antiterroriste Olivier Christen sur France Info. Des groupes de radicalisés politiques, des groupes liés à la criminalité organisée avec une convergence d'objectifs et de personnes qui se manipulent les unes les autres. Mais dans tous les cas, pas d'ingérence étrangère, selon une source proche des services de renseignement intérieur hier soir. Bruno Retailleau a estimé pour sa part sur RTL qu'il s'agit dans tous les cas de pieds nickelés au vu des modes opératoires. Pieds nickelés, je ne dirais pas vraiment ça, nous confiait ce matin un commissaire habitué de ce genre d'enquête, surtout quand on est capable de créer une chaîne Telegram et d'avoir en quelques jours plusieurs centaines de membres. Pour le reste, ce même commissaire est lui aussi convaincu que l'on va tomber sur ce que Bruno Retailleau qualifie de narco-racaille et que plusieurs groupes, comme la DZ Mafia ou des proches de Mohamed Amra, aujourd'hui en prison, ont pu téléguider ce genre d'opération. L'un des lieutenants présumés de Mohamed Amra, Jean-Charles Préra, avait ainsi cherché depuis sa cellule l'année dernière, de sa cellule de prison, à commanditer un coup de pression contre la directrice de la prison de Rouen, selon une synthèse judiciaire que nous avons pu consulter. Il y avait eu aussi en décembre dernier le même genre de contrat déjoué à Marseille contre l'un des chefs des surveillants de la prison des Momettes.
Emmanuel Leclerc, une semaine après la disparition de la joggeuse de 28 ans, Agathe Hilaret, partie courir jeudi dernier au sud de Vivonne, dans la Vienne, 120 gendarmes sont toujours mobilisés aujourd'hui. Il y a déjà eu 178 signalements. Des hôpitaux débordés, des malades qui contractent parfois deux fois le virus. La grippe a été particulièrement virulente cet hiver. 5000 morts dans notre pays, selon les chiffres de Santé publique France, et 30 000 hospitalisations. Victor Dolande, c'est donc le bilan de l'épidémie.
Et oui, cette année, la grippe a démarré plus tôt. L'épidémie a également été plus longue que la moyenne, plus sévère dans toutes les classes d'âge, et particulièrement chez les moins de 5 ans et les plus de 65 ans. Une première explication à cette épidémie sévère avancée par le professeur de virologie Marianne Ramex-Velty, directrice du Centre national de référence des virus respiratoires à l'Institut Pasteur.
Ce qui est un peu inhabituel par rapport aux autres années, c'est qu'on a une co-circulation en fait, des trois virus grippaux qui circulent chez l'homme, donc des virus influenza A, H1N1, H3N2 et des virus influenza B. Ce qui explique aussi que toutes les tranches d'âge aient été atteintes, puisque les virus influenza B ciblent plus en général les enfants et les jeunes, alors que les virus H1N1 et H3N2 touchent plus les adultes et notamment les personnes âgées.
Sur les 5000 décès recensés à cause de la grippe, notons la prédominance des personnes âgées. 82% en effet des patients décédés avaient plus de 65 ans. Marianne Ramex-Velty nous donne également des éléments de comparaison de cette épidémie par rapport aux autres années.
Probablement la plus élevée depuis, on va dire, l'ère post-Covid. Donc c'est une mortalité importante, mais qui malheureusement, la grippe régulièrement est responsable d'épidémies qui ont une mortalité importante, d'où l'importance d'une vaccination qui prévient quand même ces formes sévères.
Et sur ce point, les Français n'ont pas vraiment répondu présent. 53% à peine de personnes vaccinées chez les personnes les plus fragiles, c'est-à-dire les plus de 65 ans. C'est insuffisant, déplore Santé publique France. Enfin, notons une épidémie de bronchiolite plutôt normale cette année, ce qui a probablement sauvé le système hospitalier déjà considérablement débordé par l'épidémie de grippe.
Merci Victor Dolande. Les jeux sont faits, ou presque. Le délai pour adhérer à LR afin de désigner son nouveau président à la mi-mai expire ce soir à minuit. Un scrutin converti une fois de plus en chasse aux adhérents. Ils étaient 44 000 en février. Le chiffre a doublé depuis. Alors Bruno Retailleau ou Laurent Wauquiez, le Vendéen ou le Pono, dans la Drôme par exemple, sur les terres de Laurent Wauquiez, la région Auvergne-Rhône-Alpes, 17 000 nouveaux adhérents. Alexandre Berthaud.
Exemple d'un message type envoyé par un élu LR drômois à ses contacts.
Cher Intel.
Quelques formules d'usage et puis...
Je me permets de t'écrire pour savoir si tu accepterais de prendre ta carte au LR et voter pour Laurent à l'élection à la présidence des LR le 18 mai prochain. Si oui, tu peux le faire et en parler autour de toi à tous ceux qui veulent soutenir Laurent.
Rien d'illégal dans cette démarche et très efficace. En local, LR revendique plus de 1500 adhérents dans la Drôme, soit 1100 de plus qu'au début de la campagne. Il faut dire que c'est à Valence que Laurent Wauquiez l'avait lancé, cette campagne réunissant beaucoup d'élus régionaux. Une semaine après l'ex-président de région, c'est Bruno Retailleau qui était venu au même endroit. Un de ses rares soutiens locaux affichés, l'ancien ministre Hervé Mariton, n'est pas surpris de la campagne agressive côté Wauquiez.
Ah, moi, je dis depuis le début que Bruno Retailleau est plutôt un challenger dans cette élection, parce que je pense que Laurent Wauquiez a une maîtrise de cette manière de militer. Ça lui donne une capacité à mobiliser des adhérents.
Autre preuve de cette mobilisation locale, la Haute-Loire, dont Laurent Wauquiez est député, est le troisième département de la région en termes d'adhérents LR.
Un candidat à l'investiture LR pour les prochaines municipales à Paris est visé par la justice. Le domicile du sénateur Francis Piner a été perquisitionné. Une information judiciaire ouverte pour corruption. D'après le journal Le Monde, elle porte sur les conditions d'attribution en 2023 d'un logement social dans le 16e arrondissement à une esthéticienne de 26 ans, cette dernière disant avoir eu des relations sexuelles avec lui. Elle est candidate à sa propre succession. Delphine Ernotte, la patronne de France Télévisions, l'a annoncé au salariés du groupe ce matin. Elle brigue un troisième mandat de 5 ans et elle part favorite. L'ARCOM, le régulateur de l'audiovisuel, devra départager les candidats. Vous êtes plutôt EDF, Total Energy, Mint Energy, ou vous fournissez-vous en électricité? Et surtout, êtes-vous sûr de payer le meilleur prix? Pour répondre à cette question, 60 millions de consommateurs sortent aujourd'hui un hors-série, un classement des contrats parmi 30 offres. Et alors que 60% des foyers se fournissent au tarif réglementé d'EDF, qui a baissé d'ailleurs de 15% au 1er février. L'étude montre, Théo Mettons-Régimbaud, qu'il y a des contrats financièrement plus intéressants.
Et l'écart est parfois grand, plus de 200 euros d'économie par an sur la facture d'électricité. Si vous êtes une famille de 4 personnes dans une maison avec un chauffage électrique, au tarif réglementé d'EDF, vous payez actuellement 2555 euros par an. OHM Energy vous propose un contrat à 2346 euros. Si vous êtes un couple en appartement avec un chauffage collectif, alors vous dépensez en moyenne 632 euros d'électricité par an au tarif réglementé. Là aussi, économie de 37 euros en passant chez Mint Energy. Sophie Kwan est la rédactrice en chef de 60 millions de consommateurs. Elle incite les Français à étudier les contrats.
Il ne faut pas être fidèle à son fournisseur, en particulier si ça fait plusieurs années qu'on est chez lui. Il y a de fortes chances que le tarif qu'on paye actuellement soit beaucoup plus cher que ce qu'on pourrait payer.
Et il est parfois même intéressant de chercher d'autres contrats proposés par son fournisseur actuel. Pour la famille de 4, eh bien EDF propose 6 formules qui coûtent moins cher que le tarif réglementé. Ne pas hésiter à changer donc, mais en regardant aussi le taux de litige présenté dans cette étude. Pour OHM ou Mint Energy dont on parlait, le taux de litige est moyen quand il est faible pour EDF.
Et le magazine a aussi regardé les contrats de gaz. Pour un ménage de 4 personnes dans une maison avec un chauffage au gaz, donc il y a des économies là aussi à faire. Entre 180 et 260 euros par an pour les 5 premiers fournisseurs du classement par rapport au tarif repère appliqué au mois de mars. Vous avez peut-être reçu un message de votre banque vous indiquant que vous ne pourrez pas effectuer de virement d'ici à mardi prochain. En fait, ce message s'adresse à tous. Bonjour Maria Melkurdi.
Bonjour.
Car le week-end de Pâques est en approche.
Et oui, si vous avez un virement important à faire ces jours-ci, mieux vaut anticiper car à partir de ce soir, précisément 18h, ils seront tous suspendus et cependant 4 jours. Il faudra patienter jusqu'à mardi, 2h30 du matin, pour une reprise normale des activités bancaires. Alors, à noter Christelle, 2 choses. 1, ça ne concerne pas les virements instantanés. 2, ça s'applique uniquement aux virements interbancaires. Donc, pas de changement si vous souhaitez faire par exemple un transfert d'argent de votre livret A à votre compte courant. Les versements de salaire, rassurez-vous, ne seront par ailleurs pas impactés, contrairement à l'an dernier, le lundi de Pâques 2024, tombait un 1er avril. Alors, pourquoi un arrêt des systèmes de paiement pendant 4 jours, y compris le vendredi, me direz-vous? La plateforme qui gère les flux d'argent dans la zone euro s'arrête tous les soirs à 18h, c'est normal. Les jours fériés et les week-ends, c'est habituel également. Ce système dépend de la Banque Centrale Européenne et donc de son calendrier. Le vendredi saint est considéré comme férié par la BCE, comme dans certains pays d'Europe d'ailleurs. Le but est donc d'harmoniser les opérations bancaires à l'échelle européenne.
Mariam Elkurdi, à Saint-Étienne, les éboueurs sont en grève depuis 10 jours. Pourtant, vous avez peut-être vu des camions poubelles ramasser les ordures. Ce sont en fait des prestataires privés embauchés par la ville. Depuis le week-end dernier, la collectivité paie 3 entreprises pour ramasser les sacs sur les trottoirs. Lucie Amadieu.
Oui, ce sont en moyenne 5 camions qui sillonnent la ville. Ils passent dans le centre quotidiennement. Pour le reste, c'est un jour sur deux, indique Cyrine Maclouf, adjointe au maire chargée de la propreté.
En tant que commune, on doit assurer des missions de propreté urbaine et de salubrité publique et qu'à ce titre, il nous paraissait indispensable de pouvoir ramasser les sacs qui étaient apposés à côté des bacs d'ordures ménagères.
Et uniquement cela, interdiction de vider les conteneurs, sinon ça reviendrait à casser la grève. Cette opération coûte à la ville de Saint-Étienne environ 10 000 euros par jour.
Là, on pallie à l'urgence pour l'instant, donc on fait au mieux entre guillemets. Après, c'est des coûts qu'on n'a pas le choix de supporter parce qu'on ne peut pas laisser la ville dans cet état-là. Donc,
La ville a déjà prévu 6 jours de collecte et elle se dit prête à prolonger autant que nécessaire. De leur côté, les agents sont toujours mobilisés. Si malgré l'intervention des entreprises privées, les rues restent submergées par les déchets, c'est bien parce que notre mobilisation est juste et parfaitement fondée, estime la CGT. Le syndicat dénonce aussi l'absence de nouvelles négociations avec les élus de Saint-Étienne Métropole.
Lucie Amadieu, d'ici Saint-Étienne-Loire. L'hiver n'est pas tout à fait fini dans les Alpes. Il est tombé jusqu'à 1,20 m de neige en altitude en Savoie dans la nuit de mercredi à jeudi. Le département est d'ailleurs en vigilance orange aux avalanches. À Val d'Isère, le directeur général de la station est à la fois content et prudent.
On a pris à peu près 80 cm en station. Depuis hier, 1 mètre sur les pistes, on nous annonce jusqu'à 1,30 m quand on arrivera à la fin de l'épisode neigeux. Donc, on avait déjà des gens qui avaient prévu de venir pour les vacances scolaires à cette période-là. On avait déjà de la neige sur le domaine, mais là, avec la poudreuse, c'est encore plus agréable de skier. Donc, on pense effectivement qu'il va certainement y avoir aussi un impact sur la fréquentation grâce à cette nouvelle tombée de neige. En ce moment, l'ensemble des équipes des pisteurs du domaine sécurisent les domaines à partir du village jusque sur les hauteurs, petit à petit, pour permettre de purger tous les risques. Ça peut prendre un jour ou deux. Donc moi, j'invite tout le monde, surtout à la prudence demain. Il y aura encore des risques à éviter. Moi, j'invite tous les gens qui vont skier en ce moment sur tous nos massifs à être très prudents quand le soleil va revenir.
Christophe Lavaux de Val d'Isère, interrogé par Marie Bernardot de France Info. L'autoroute A43 est fermée aux poids lourds. Des chutes de neige exceptionnelles aussi chez nos voisins suisses sur le canton de Valais. Ave César, la BD te salue. La vie du plus célèbre général romain est racontée avec des bulles. Leurs auteurs ont rencontré 32 historiens spécialistes de Jules César, un homme beaucoup plus moderne qu'on ne le pense, Prune Benedini.
250 pages de batailles sanglantes et d'intrigues politiques. Il n'en fallait pas moins pour raconter l'histoire de Jules César, de son enfance sans le sou à son assassinat, en passant par sa conquête de l'Europe.
Quand vous feuilletez la BD, c'est pas une BD de l'histoire latine.
Alfred de Montesquieu, scénariste et co-auteur avec le dessinateur Neville.
Il est storyboarder, donc il y a des choix d'angle. C'est presque par moments comme du manga ou comme du film d'action, pour souligner en fait la modernité de ce que lui est en train de vivre et donc la modernité du personnage.
Sous l'allure d'une bande dessinée classique, Moi, Jules César dévoile un personnage loin des clichés, ancien prêtre, bisexuel ou encore stratège étonnant, dans une époque qui résonne avec notre actualité.
Notamment politiquement, je trouve que de regarder cette république romaine en déliquescence, qui est attaquée par le pouvoir de l'argent, par l'ego de différentes personnes qui veulent devenir des dictateurs, me rappelle hélas tristement beaucoup notre époque, notamment évidemment Donald Trump aux États-Unis. Et je trouve que c'est intéressant de regarder les mécanismes par lesquels la démocratie est attaquée.
Une œuvre dense, minutieusement sourcée et destinée autant aux ados qu'à leurs parents.
Moi, Jules César est publié aux éditions Alary. Lui, c'était le roi de la terre battue, mais il a rangé sa raquette. Raphaël Nadal, donc, que nous réserve le tournoi de Roland-Garros cette année entre 25 mai et le 8 juin prochain. Fabrice Abgral, le programme vient tout juste d'être dévoilé.
Les organisateurs ont voulu rendre hommage à deux joueurs et une joueuse qui ont marqué l'histoire du tournoi. La joueuse, c'est Mary Pierce, lauréate porte d'Auteuil en 2000, il y a 25 ans. Les deux joueurs, eux, fêteront leurs 39 ans dans quelques semaines. Le premier, c'est Richard Gasquet. Il va prendre sa retraite une fois qu'il aura perdu son dernier match à Roland-Garros, où il a joué pour la première fois en 2002, alors qu'il n'avait que 15 ans. L'autre a pris sa retraite l'an passé. Il a déjà sa statue à Roland-Garros, mais c'est un monument du tournoi. C'est Raphaël Nadal, la légende de la terre battue, vainqueur 14 fois à Roland-Garros. Il sera fêté le 25 mai. Amélie Moresmo, la directrice du tournoi.
Je ne vais pas vous révéler beaucoup de choses sur les contenus, forcément des surprises. Voilà une envie qu'on avait déjà l'année dernière et qu'on n'a pas pu mettre en place de lui rendre hommage, hommage à cette histoire hallucinante qu'il a avec le tournoi de Roland-Garros et ses 14 victoires. Donc il y a plein de belles choses et on espère que ça sera un moment surtout d'émotion, d'abord pour lui, parce qu'il le mérite, et puis évidemment pour tous les gens qui sont dans le stade.
Par ailleurs, cette année, il y aura la création d'une fan zone, place de la Concorde, du 4 au 9 juin. Les demi-finales hommes cette année ne s'enchaîneront pas. La première aura lieu à 14h30, la seconde pas avant 19h.
Fabrice Abgral, Gisèle Pellicot, devenue un symbole des victimes de viol, et Léon Marchand, phénomène de la natation, sont tous les deux dans la prestigieuse liste des 100 personnes les plus influentes de 2025. Liste du magazine américain Time. Ils figurent dans la catégorie icônes. La première dans une démonstration d'un courage extraordinaire, selon le magazine. Elle a refusé que le procès contre son ex-mari se déroule à huis clos. Le second, dont la motivation à mettre le premier la main sur la ligne d'arrivée au JO de Paris, a captivé 4 fois l'attention du monde entier. 13h27 sur Inter, à suivre dans la prochaine demi-heure, la météo d'Olivier Proust. À 13h30, on prend la route. Le week-end de Pâques sera chargé. La sécurité routière cherche à sensibiliser ceux qui roulent en moto ou en scooter au danger de la route. Certaines habitudes changent, notamment pour la circulation interfile dans les embouteillages. Nous recevrons la nouvelle ambassadrice de la sécurité routière, la pilote Ornella Ongaro, qui dispute le championnat du monde moto féminin en ce moment, et la déléguée interministérielle à la sécurité routière. La suite de notre feuilleton avec une icône incontournable des bals populaires à Châteauroux, c'est la France. Bonjour Marie-Luce Ribaud du journal Sud-Ouest.
Bonjour.
Et en ce week-end, Pascal, vous nous parlez d'une résurrection.
Oui, de celle du chocolat français. Sous Louis XIV, les Antilles françaises étaient les premières productrices de cacao dans le monde. Bon, c'est une autre époque, mais alors qu'ils avaient disparu, on voit à nouveau pousser les cacaoyers dans la campagne martiniquaise.
Et dans C'est une chanson, merci Marie-Luce, à tout à l'heure, Frédéric Pommier rediffuse un hommage à Jacques Brel. L'actrice Brigitte Fossé a choisi le plat pays.
C'est le premier chanteur que j'ai vu à l'âge de 12 ans à Annecy. J'étais au premier rang et il pleurait, il chantait, il riait. J'ai trouvé que c'était un très grand acteur en même temps.
À suivre la météo.
Il est, comment dire,
bon ?
C'est ça, il est bon ton jambon.
Jambon de Bayonne.
Ah bah oui.
Le jambon de Bayonne, bon pour le goût, bon par engagement, bon tout simplement.
Pour votre santé, évitez de grignoter.
France Inter, partenaire de l'exposition Le Monde selon l'IA aux Jeux de Paume à Paris.
De l'IA analytique à l'IA générative, comment ces nouveaux outils qui se développent à vitesse accélérée permettent de repenser et de renouveler les processus de création ? Des capsules temporelles jalonnent ce parcours, offrant un éclairage historique et tissant des liens entre le présent et le passé pour mieux situer cette révolution technologique dans son contexte. Le Monde selon l'IA jusqu'au 21 septembre au Jeu de Paume, un événement France Inter.
Bienvenue si vous nous rejoignez sur France Inter, 13h29, la météo.
La météo, avec Préfonds, l'expertise retraite, épargne et prévoyance de la fonction publique depuis plus de 60 ans. Pour une retraite solide, même par temps incertain. Préfonds.fr.
Bonjour Olivier Proust.
Bonjour.
Et le temps sera encore très perturbé aujourd'hui dans l'Est.
Avec de la neige qui continue de tomber vers 1200-1300 mètres de l'ouest des Alpes au Jura et tout le flanc est du pays jusqu'en Provence reste sous la pluie cet après-midi. Des pluies parfois soutenues aux abords du relief. Les Alpes intérieures retrouvent quand même un temps plus calme, les précipitations deviennent plus éparses et surtout la neige ne concerne plus les vallées. Tout l'arc alpin reste en risque fort d'avalanche. Et dans le sillage de la dépression Hans, qui file maintenant vers l'Italie, Tramontane, Mistral et vent en Corse restent très forts avec des pointes à 80-100 km/h. L'île reste en vigilance pour des pluies soutenues sur l'ouest. Ailleurs, c'est quand même le printemps, le ciel bourgeonne cet après-midi. Il devient variable à nuageux avec quelques averses. Un temps sec et des éclaircies plus larges près de l'océan progressent dans l'intérieur. Les températures sont très contrastées. Il fait très frais avec autour de 10 degrés sous les pluies dans l'est, 12 à 17 ailleurs, mais 18 à 20 en Languedoc sous le soleil. À noter également une certaine douceur dans la vallée de la Seine, de Paris à Rouen, où on atteindra, voire dépassera les 18 degrés.
C'est le grand écart, donc merci Olivier.
France Inter, le 13-14, Christelle Rebière.
Le week-end de Pâques approche et c'est traditionnellement l'un des plus chargés sur la route. Bison futé en voie de toutes les couleurs. D'autant que cette année, c'est le moment où trois zones sont en vacances. Le chassé-croisé sera dense. Alors c'est le moment de faire attention les uns aux autres et de rappeler quelques règles essentielles pour se partager la route et arriver à bon port. Et parce que les beaux jours arrivent, nous avons voulu faire un gros plan sur les motos et autres deux roues motorisées. Pour en parler avec vous au 01 45 24 7000, Ornella Ongaro, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes pilote de moto, vous participez en ce moment au championnat du monde féminin et vous êtes la nouvelle ambassadrice de la sécurité routière. En face de vous, Florence Guillaume, je crois que vous faites de la moto aussi. Hein.
Aussi, un petit peu.
Voilà, déléguée interministérielle à la sécurité routière. Bonjour. Alors d'abord, pourquoi avoir choisi Ornella ?
Ah, alors c'est avant tout une belle rencontre. Hein. En quelques secondes, en fait, on sent tout de suite une femme d'engagement. À la fois l'engagement sportif, parce que ça requiert vraiment de la discipline, et puis l'engagement de cœur, vraiment une envie profonde de pouvoir aider les autres. Et en plus, une femme pilote. Voilà, c'était aussi un élément assez important pour mettre à l'honneur le sport féminin.
Et vous, Ornella, pourquoi vous avez accepté donc ?
Mais moi, en fait, j'ai toujours aimé protéger de manière naturelle et partager mon expérience. Et c'est vrai que ça fait 29 ans sur 34 que je suis dans le milieu du deux-roues et de la moto en général.
Ah, vous avez commencé à 5 ans ?
Tout à fait.
Bon, on n'a pas le droit de monter sur une moto à 5 ans. Qu'est-ce que vous me racontez là ?
Si, si, sur des mini-motos adaptées dans des endroits justement sécurisés.
Ah oui ?
Sur circuit. Oui, oui, tout à fait.
Il y a des tout petits qui commencent.
Oui, oui, tout à fait.
Je ne savais pas.
Tout à fait. Donc voilà, c'est pour ces raisons-là.
Et vous disiez protéger, ça m'intéresse.
Oui, tout à fait. Ben, en fait, j'ai toujours eu ce côté-là. Et protéger, ben, voilà, ramener. Essayer de passer, rajouter sur tous les messages qui sont déjà faits pour protéger, et oui, parce qu'il faut vraiment penser à ça, parce que le deux roues, voilà, c'est bien, c'est la liberté, etc. Mais il faut penser à se protéger, protéger les autres. Donc,
et j'imagine que vous avez déjà des relais sur les réseaux sociaux et vous faites déjà passer ce message.
Oui, déjà, tout à fait. Mais en fait, de manière naturelle, je le faisais déjà auparavant. Et c'est vrai que là, du coup, en ayant cet honneur de devenir l'ambassadrice, ça permet de toucher encore plus de monde et d'avoir un peu plus de crédibilité sur peut-être les personnes qui sont assez sceptiques.
Alors Ornella, quand vous roulez hors circuit comme tout le monde, qu'est-ce qui vous dérange le plus chez les autres ?
Eh ben, clairement, ce sont les automobilistes qui mettent leur clignotant au dernier moment. Voilà, c'est quelque chose.
Ça, c'est ce qu'il y a de plus dangereux pour les motards ?
Pour ma part, puisque en fait, pour ma part, hein, parce qu'en fait, nous, on essaye d'anticiper. En tous les cas, c'est ce qu'il faut. Regarder un petit peu, essayer de regarder le conducteur dans sa voiture à partir du moment où c'est faisable, de savoir où il va. C'est comme ça déjà que ça m'a sauvé moi plusieurs accidents, puisque en fait, vous voyez s'il met pas son clignotant, mais vous voyez où il regarde. Donc, ça arrive très souvent et je trouve ça très très dangereux et très embêtant.
Vous avez connu vous-même des accidents, Ornella ?
Alors moi-même, oui, j'ai été d'ailleurs percutée même sur l'autoroute hein, par un imbécile qui regardait son téléphone portable, d'ailleurs.
On va en parler tout à l'heure du portable.
Voilà, donc chose très grave. Dieu merci, bah, je suis encore là, ce qui n'est pas le cas pour beaucoup de monde. Et j'ai connu, oui, des personnes qui sont décédées à cause d'imbéciles qui conduisent en état d'ivresse ou de pilotes qui, malheureusement, oublient que la ville, la route, c'est pas un circuit.
Alors, il faut savoir effectivement que sur les routes, les motards sont particulièrement exposés. Ils ne représentent que 2% du trafic, mais 23% des morts sur la route, 32% des blessés graves, 37% ont encore des séquelles un an après, Florence Guillaume.
Oui, bah, il ne faut jamais oublier que les motards, avant tout, sont des usagers vulnérables. C'est-à-dire qu'ils
sont les plus vulnérables, en fait.
Ce sont les plus vulnérables d'une certaine façon parce que à la fois vous avez certes l'équipement, mais au moins le casque et les gants, mais malgré tout il y a quand même de la vitesse, pas forcément de l'excès de vitesse, mais de manière générale quand vous roulez à moto, vous roulez sur autoroute, vous êtes susceptible d'être à 130. S'il arrive quoi que ce soit à 130, la chute est lourde. Donc c'est vraiment la conjugaison à la fois de pas de carrosserie et une vitesse potentielle, sans même parler d'excès de vitesse. Donc oui, les motards sont des usagers à risque, et ce que soulignait Ornella tout à l'heure avec le clignotant, c'est très important parce que la route, elle se partage. On a vraiment des usagers avec des types de véhicules, avec des vitesses, avec des masses qui sont différentes, et c'est ça qui est important parce qu'il faut veiller aux autres, il faut veiller aux plus vulnérables, il faut veiller aux cyclistes, il faut veiller aux motards.
Et quels sont les principaux dangers? Alors vous parliez des clignotants tout à l'heure, Ornella, moi je pense aussi aux distances de sécurité qui sont quasiment jamais respectées sur l'autoroute.
Oui, bien sûr. Alors, il y a beaucoup de facteurs. La partie distance de sécurité, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Hein, c'est anticiper, bah, ça veut dire se donner le délai pour anticiper. Après, les facteurs principaux d'accident, ils demeurent quand même de façon inchangée. La vitesse, l'alcool et stupéfiants. Et le téléphone.
Pourquoi la vitesse ? Pourquoi c'est toujours la vitesse ? Pourquoi on n'arrive pas justement à lutter contre ce qui reste la principale cause d'accident mortel ?
Alors la vitesse, elle a quand même globalement un peu baissé. Mais il reste quand même un vrai sujet vitesse qu'on a souvent tendance un peu à minorer, alors que c'est purement mathématique ce que je veux dire. Hein, mais le choc, c'est de la vitesse et de la masse. Donc plus vous allez vite et plus vous êtes lourd, plus forcément il y aura du dégât. Donc une fois qu'on a compris ça, on comprend que on peut vraiment entendre que plus vous allez vite et plus vous allez, quelque part, avoir de risques pour l'accident et en provoquer pour les autres.
La vitesse, donc, et la distraction. On parlait des portables tout à l'heure, Ornella. Effectivement, ça multiplie par 23, on dit, le risque d'accident. Si on regarde
un SMS.
Si on lit un SMS. Et ça, on n'en a pas forcément conscience.
Oui, alors on a voulu sensibiliser d'ailleurs les usagers dans une campagne en février, parce qu'en fait, je crois que les gens sont un peu dans une forme de déni. Ils se rendent pas compte que lorsqu'ils sont en train de regarder leur portable, ils ont l'impression de consulter le message ou consulter un mail une demi-seconde. En réalité, c'est souvent 2, 3, 4 secondes. Et en 4 secondes, quand vous êtes, par exemple, sur l'autoroute à 130, bah, vous en parcourez des mètres, et même à 80. Donc c'est vraiment ça. Quand on regarde son téléphone, on ne regarde pas la route.
Ornella, vous voulez ajouter quelque chose ?
Ah oui, moi j'en ai été victime. Donc voilà, au début, je n'avais pas compris. Donc j'étais forcément donc, en moto. Et en fait, derrière moi, je n'avais personne, parce que c'est très très important aussi, ça aussi je tiens à le signaler, de regarder dans les rétroviseurs quand on est en deux roues. Voilà, parce que devant, on peut anticiper. Derrière, ça met un peu plus de temps, et surtout regarder au maximum ces rétroviseurs, parce que devant, voilà, l'anticipation ok, mais voilà. Et donc là, moi j'ai regardé dans les rétros, il n'y avait personne. Et d'un seul coup, paf, j'ai rien compris. Et finalement, du coup, je suis tombée sur l'autoroute, donc j'ai eu beaucoup, beaucoup de chance de ne pas me faire écraser. J'ai eu très, très peur. Voilà, c'est pour moi, pilote, j'ai eu très, très peur. Et en fait, on a su que voilà, il a freiné sur 62 mètres une fois qu'il a fait la bêtise, et il était sur son téléphone portable normal. Donc en fait, il a dû doubler, se mettre dans la ligne où j'étais, sur la voie où j'étais. Et du coup, il m'a pas vu, et bam, voilà. Ce qu'on disait sur les secondes.
Mais vous avez été percuté par une voiture, par un camion?
Ah, par un camion plateau, exactement.
Plateau.
Oui, je suis encore là aujourd'hui. Ouais,
vous avez de la chance d'être vivante.
Oui. Bah, après, j'étais bien protégée. Voilà. D'où l'importance.
Je voulais qu'on y vienne. Alors, être bien protégée, qu'est-ce que ça veut dire ?
Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est d'avoir tous les équipements déjà homologués.
Donc le casque, avoir un casque, alors de préférence intégrale, parce que les casques jet, après, vous pouvez perdre la moitié de votre face, hein, quand même. Donc,
c'est-à-dire un casque intégral
qui... les casques jet.
Jet, c'est ceux qui ne prennent pas le menton.
Donc les jeunes aiment beaucoup ça, mais sauf qu'ils sont pas, je pense qu'ils ont pas, la conscience. Mais moi, je sais de quoi je parle, encore une fois, parce que j'ai une copine qui est tombée, qui avait le menton. Voilà, c'est aujourd'hui, elle est un peu défigurée. Donc voilà, d'avoir un blouson avec les coques de protection, un jean avec les coques de protection. Pareil pour les pieds, on s'en fout des pieds. Ben moi, quand je suis tombée, si j'avais pas eu les bonnes chaussures adaptées ou les
il faut
ou
des
les
bottes de moto.
Voilà, pour les chevilles, etc. Les gants, ça va de soi. Voilà.
Mais c'est obligatoire, de toute façon. Comme le casque.
Et aujourd'hui, on a la chance d'avoir, de nos jours, depuis un certain temps, l'airbag. Et l'airbag, moi, j'étais assez réticente au tout début. Et au final, je suis tombée en compétition avec l'airbag. L'airbag, non seulement sauve des vies, mais sauve aussi tout ce qui est la partie côte, tout ce qui est nuque, tout ce qui est... Il faut avoir tout ça. Et c'est ce que j'avais, moi, quand je me suis fait percuter. Et finalement, vous allez rigoler, mis à part le traumatisme crânien, qui est une chose qui peut arriver même avec des bons casques, surtout l'allure où il m'a percuté, vous allez rigoler, à 130 sur l'autoroute, je me suis levée avec le petit doigt cassé.
Oh, mon Dieu.
Voilà. Donc, parce que j'étais bien protégée. Donc, j'aurais pas été, voilà.
Les airbags, par exemple, sur les vestes, pensez-vous que ça devrait être la norme ?
Ah oui, mais enfin, voilà. Moi, en tous les cas, je trouve que c'est vraiment une très bonne chose. Comme je vous ai dit, j'étais très réticente. Hein. Je suis jeune, mais je suis quand même une ancienne. Hein. Moi, je suis une passionnée depuis 1996. Donc, je me suis dit, l'airbag, qu'est-ce que c'est que ça et tout. Et finalement, non, je suis tombée avec. Et je peux vous dire que, alors, tout le monde, quand on dit ça sauve des vies, on dit, on ne va pas tout le temps mourir. Si, ok, d'accord, ouais. Mais déjà, ça sauve. Et puis, quand tu tombes, je vous assure que ça aide énormément. Et je pense que oui, l'airbag, en tous les cas, tout le monde devrait en porter un pour sa propre sécurité.
Et vous pensez qu'il faudrait légiférer là-dessus, Florence Guillaume. Je ne sais pas s'il faut une loi ou un décret, d'ailleurs, pour changer les choses.
C'est plutôt de l'ordre du décret, mais en tout cas, je crois qu'il y a deux choses, parce que l'important, c'est le chemin. Et donc, c'est déjà toute la communication qui est faite pour qu'au fur et à mesure, la question du gilet s'impose comme quelque chose, effectivement, qui protège et qui est important. Ce qui est bien aussi, c'est qu'on voit que le pourcentage de motards qui s'équipent progresse. Ils progressent aussi à la faveur de prises de parole assez fortes comme celle d'Ornella sur le fait que parfois sur les circuits c'est obligatoire également.
C'est obligatoire,
donc c'est important aussi. Et je pense que du coup ça démocratise aussi l'objet et au fur et à mesure je trouve que ce pourcentage qui augmente montre que finalement et parfois aussi j'irai la question de s'approprier vraiment les choses, non pas parce que c'est une obligation mais parce qu'en fait c'est utile.
Oui, tout simplement.
Parfois, il n'y a pas forcément toujours besoin de mettre des obligations, mais par contre, il y a besoin de faire une communication et d'être clair. Peut-être que ça ne protégera pas de tout, mais en tout cas, ça protégera de beaucoup.
Mmh. On va partir au standard, retrouver Jean-François. Bonjour.
Bonjour.
Soyez le bienvenu, Jean-François, nous vous
Merci.
Écoutons.
Oui, je voulais apporter ma petite contribution au débat. Je suis artisan taxi, je suis sur la route depuis 25 ans. Alors pas dans une grande ville, hein, en Savoie, il y a la route des Grandes Alpes qui est très très fréquentée par les motards. Il y a d'autres axes évidemment. Et je suis effaré, et le mot est faible, par l'inconscience, par la prise de risque de certains conducteurs de deux roues. Ça double, ça franchit les lignes continues. Je suis pas statisticien, donc je ne sais pas quelle est la proportion de blessés ou de décédés sur la route. Dans le décès ou dans l'accident et le résultat de leur inconscience ou de leur imprudence. Mais enfin, mon vécu est tel qu'il est. C'est effrayant.
Mais c'est intéressant et Ornella Ongaoro a envie de vous répondre.
Oui, bonjour. Je voulais revenir sur le fait que quand vous disiez de dépasser les lignes blanches, je tiens quand même à vous dire quelque chose, c'est qu'il y avait un pilote moto de très très bon niveau donc en compétition qui donc n'a pas respecté cela. Il suffit d'une fois la preuve et pourtant donc il avait la maîtrise de sa moto, il savait faire etc. Sauf qu'il a doublé, il a dépassé une ligne blanche et de ce fait, il a touché un rétroviseur. Il est décédé sur le coup. Mmh. Donc voilà, c'est vraiment des choses. Et de toute façon, il faut bien retenir ça, la route, ce n'est pas un circuit. Donc à un moment donné, il y a suffisamment de choses aussi et de possibilités. D'ailleurs, vous pouvez venir rouler avec moi sur circuit en toute sécurité pour pouvoir se faire plaisir. Mmh. Voilà, à partir du moment où on a une moto, où on a les moyens financiers de pouvoir s'acheter, d'avoir ce petit plaisir, cette liberté de pouvoir rouler en moto, il y a des circuits, il y a des choses qui sont faites
pour pouvoir mettre du gaz, comme on dit dans le jargon, en sécurité. Donc voilà, la route, c'est pas un circuit.
Bon, j'aimerais bien qu'on parle de la circulation à interfiles qui a été généralisée à tout le territoire au mois de janvier, parce que c'est votre combat du moment, Florence Guillaume. On rappelle les règles, ça ne se fait pas sur n'importe quelle route.
Oui, alors la circulation interfile, alors déjà elle a été effectivement mise dans le code de la route en janvier, mais c'est après 9 ans d'expérimentation qui ont permis vraiment d'identifier dans quelles conditions ça pouvait être pratiqué en sécurité. Alors quelles conditions? C'est sur les routes qui sont au moins à 2x2 voies avec un séparateur central, ça se fait entre les deux files les plus à gauche, ça se fait quand la circulation est congestionnée, à 50 km/h maximum pour le motard, ou si vraiment les files sont à l'arrêt, à 30 km/h maximum pour les motards. Et tout ça pour en fait avoir un différentiel de vitesse avec les véhicules qui soit pas trop écarté. Donc vraiment l'idée, c'est que ça se pratique de façon sécurisée dans des vitesses qui sont quand même très régulées. Et justement, ce qui est important, et on fait de la communication aujourd'hui, pour bien le redire aux motards, mais aussi
parce qu'on connaît pas forcément les règles pour l'instant.
Exactement. Et le redire aux automobilistes, parce que, encore une fois, on est tous sur la route. Donc si le motard sait comment il faut faire, et si l'automobiliste, lui, n'a pas cette conscience que aujourd'hui c'est réglementaire de pouvoir passer entre les files quand la circulation est congestionnée,
ça les agace un peu, les automobilistes, de voir les motos passer, les scooters passer pendant qu'ils sont à l'arrêt.
Oui, mais après, je crois qu'il faut chaque mode de circulation a ses atouts et ses inconvénients. L'important, c'est de le faire en sécurité et en conscience de ce que font les autres.
Mmh. Ornella Angaro, vous voulez rajouter quelque chose sur cette circulation interfile ?
Oui, non, surtout rappeler tout simplement que, voilà, encore une fois, c'est une motarde pure depuis de nombreuses années qui vous le dit. Je parle avec le cœur et avec sincérité que, voilà, on en revenait tout à l'heure aussi au clignotant ou pas. Quand on remonte les fils, c'est bien, ça fait partie de la liberté, etc. Mais il faut vraiment faire attention de ne pas le faire trop vite, parce qu'à tout moment, une personne qui ne vous voit pas, elle se décale un tout petit peu. Mais sauf qu'un tout petit peu, si toi tu vas vite ou quoi que ce soit, ça finit mal, quoi. Donc vraiment faire attention.
Merci pour vos conseils. Merci à toutes les deux. Et Ornella, vous allez disputer la deuxième manche des championnats du monde moto féminin à Cremone, en c'est Italie. Ça. Le mois prochain, c'est ça ?
C'est ça, tout à fait. Du 2 au 4 mai. Bah, d'ailleurs, je vous invite à venir,
avec
si
plaisir.
Vous en avez les possibilités, pour m'encourager.
Avec plaisir. Merci à toutes les deux. Et bonne route à vous tous, si vous nous écoutez. Une semaine dans leur vie, toujours dans le Berry. Depuis lundi, nous rencontrons des musiciens de bal populaire qui animent fêtes de village, bal musette, thé dansant. Une question aujourd'hui, est-ce un métier en voie de disparition ? À Châteauroux, Cécile Bidot a rencontré Fabrice Guillot, figure incontournable du bal dans le centre de la France, qui pourtant doit se réinventer pour vivre.
Le public, malheureusement, disparaît de plus en plus. Donc j'ai perdu un petit peu la foi, j'avoue, dans le monde de la musique dansante, du bal traditionnel. Ça devient vraiment compliqué. Ça fait des années avec mes collègues qu'on dit que c'est la dernière année. Ça fait 15 ans que j'entends ça. Mais là, je pense qu'on arrive vraiment, malheureusement pour moi, au bout du bout. Alors j'espère me tromper. Bonjour, je m'appelle Fabrice Guillot, j'ai 51 ans, je suis accordéoniste, clavier et chanteur. Voilà, j'habite dans la Brenne, à Vendeuvre, dans l'Indre.
Donc ça, c'est la voiture où vous transportez tout votre matériel ?
Oui, exactement. Donc il y a le système de sonorisation, tous les instruments, les câbles, les pieds pour mettre les enceintes, les pieds de micro et tout ça. Là, j'arrive de Bourges.
Et voilà. C'était quoi la prestation ?
La prestation, c'était un salon pour des pêcheurs. Donc on animait le repas, voilà.
Vous avez déjà compté combien de prestations vous avez fait ? Combien de concerts ?
À la louche, presque 2000. Depuis que j'ai commencé, j'avais 16 ans. C'est en rentrant de l'école un jour avec le cartable, non pas sur mon dos, mais sur le ventre. Et machinalement, du coup, je me suis mis à tapoter sur le cartable. Et ma mère m'a dit, tu feras de l'accordéon. Et c'est pas ce que j'avais décidé, moi je voulais faire du foot avec les copains. Et c'est l'accordéon qui a gagné. Mon répertoire, c'est Aznavour, Yves Jamais, Beco, Brel, Brassens.
Ça fait danser des gens, ça ?
Ça peut faire danser des gens. Par exemple, Amsterdam de Brel, c'est une valse, et ça marche. L'âge d'or, c'était avant ma naissance. A priori, les plus belles années du bal étaient comme les années après-guerre. Après, ça s'est estompé avec l'arrivée du disco et du rock, surtout. Et il y a surtout moins de monde dans les bals. Les jeunes générations qui s'intéressent à la danse de salon dansent essentiellement dans des clubs privés de danse Ils dansent sur des musiques qu'on leur passe en MP3 ou sur des disques. Je pense que les musiciens doivent se renouveler, puisque le bal populaire malheureusement disparaîtra. Alors moi du coup, je me suis intéressé en parallèle par l'accompagnement de chanteurs et chanteuses. Donc j'ai eu l'occasion de pouvoir participer à des pièces de théâtre musical en tant que musicien accompagnateur. Et en dehors, je fais du coup des parties en solo, des animations, des tours de chant. Voilà, que je propose aux maisons de retraite, aux centres pour les jeunes enfants handicapés, pour les hôpitaux, pour les comités des fêtes. La diversité justement me permet de tenir, et puis j'y trouve beaucoup de plaisir parce que c'est le principal, c'est l'émotion et l'échange humain et l'impression de servir à quelque chose. Aujourd'hui, nous sommes à la Guinguette de Belle-Île. Ça fait 19 ans que je joue ici. Et du coup, les habitués, je les connais tous. C'est le côté humain, encore une fois.
Il est venu nous rejoindre bien gentiment ce soir, mon ami Fabrice Guillaume.
Donc aujourd'hui, c'est Baptiste Auclair qui a 26 ans, qui assure la prestation dans cette guinguette.
Baptiste, il fait partie de ces accordéonistes chanteurs qui ont su se remettre en question. Je trouve ça chouette.
Est-ce que les deux générations me feraient une petite improvisation
Ah, je suis partant.
Emmenez-moi, peut-être un truc comme ouais. Ça.
Emmenez-moi de la terre, emmenez-moi au pays des merveilles. Il ne que la misère serait moins pénible soleil.
Je vais pouvoir partir en retraite paisiblement.
Pas tout de suite, hein.
Cécile Bidot et Stéphane Ronxin à la réalisation. Et demain, nous serons en compagnie du jeune Baptiste Auclair, l'accordéoniste, justement, que vous venez d'entendre.
France Inter, le 13-14.
Ah, c'est la France avec Marie-Luce Ribaud du journal Sud-Ouest. Marie-Luce, vous nous servez aujourd'hui un conte de Pâques.
Oui, une belle histoire qui va nous faire voyager entre Bayonne dans le sud-ouest et la Martinique où la culture du cacao est en pleine renaissance. Une histoire née dans un rêve, celui de Cora Bernabé. Depuis son plus jeune âge, elle passe ses week-ends avec son grand-père chéri, devenu agriculteur sur le tard. Une tante historienne découvre que ce domaine luxuriant, où Cora aime tant travailler la terre, a abrité une forêt de cacaoyers. L'idée commence à cheminer. Cora étudie l'agronomie, parcourt le monde agricole caribéen et revient au pays. Aujourd'hui, elle a 35 ans et sous son impulsion, une cinquantaine de producteurs cultivent 130 hectares de cacao martiniquais. Une incroyable résurrection.
Et comment a-t-elle fait ?
Elle a d'abord su convaincre que le cacaoyer était une richesse ancestrale de cette île. Sous Louis XIV, avec 10 000 tonnes, nous étions avec la Guadeloupe les premiers producteurs de cacao au monde, nous dit-elle. Mm-hmm. Or, rien à voir avec les 5 millions qui sont aujourd'hui récoltés sur la planète. Mais cette culture avait toute sa place dans le jardin créole. Les cyclones, les maladies, la culture intensive de la canne à sucre et de la banane ont précipité leur disparition. En 2015, avec le soutien de la région, Cora a créé la coopérative Valcaco et le cacao a retrouvé sa place dans l'agriculture martiniquaise.
Et c'est une production qui devient rentable.
Oui, si vous avez fait vos emplettes de Pâques, vous aurez mesuré la folle envolée du prix du chocolat.
Je vous le confirme, c'est terrible cette année.
Au début de 2023, effectivement, la tonne de fèves s'est écoulée à 2085 euros. Elle se négocie aujourd'hui à 7250 euros. Le chocolat est un luxe. C'est ce changement de conjoncture qui a favorisé notre essor, reconnaît Cora Bernabé. Certains consommateurs sont prêts à payer pour une filière 100% française, pour de la qualité plutôt que de la quantité. Nous sommes en agroforesterie et chaque cultivateur est rémunéré au juste prix. Certains commencent à en vivre. Dans une île où l'agriculture est en souffrance, le cacao nous réconcilie avec notre terre. Il faut savoir, Christelle, que le cacao est né ici avec les Amérindiens et les fèves martiniquaises renferment des arômes extraordinaires. Elles libèrent des notes boisées, épicées, de fruits à coque, de caramel et de fruits rouges.
Mais vous nous disiez, Marie-Luce, que nous ferions un détour par Bayonne.
Oui, oui. Au XVIIe siècle, des Juifs maranes, expulsés du Portugal après avoir été chassés d'Espagne par l'Inquisition, y ont trouvé refuge. Négociants, ils ont gardé contact avec l'Amérique du Sud. Ils connaissent les techniques de la fabrication du chocolat et répandent leur savoir d'abord au Pays Basque, ensuite dans toute l'Europe. Aujourd'hui, ils sont encore nombreux dans Bayonne à hisser très haut l'art chocolatier. Ronan Lagadec et Cyril Pouille, 40 ans, sont les petits derniers de cet écosystème gourmand et ils ont lancé Monsieur Chocolat. Nous avons rencontré Cora et Nicolas, son associé. Ils apprécient notre façon de défendre les produits du terroir basque. Nous, on est admiratifs de leur filière de cacao éthique. On a d'abord transformé leurs fèves. Aujourd'hui, on transmet notre savoir-faire. En juin, avec notre soutien, une fabrique verra le jour. La Martinique, c'est une victoire, va donc refaire son propre chocolat.
Et Monsieur Chocolat nous propose de ne rien perdre des restes de Pâques.
Exactement. Si vous avez trop de chocolat, faites-en fondre 150 g dans 350 g de lait. Ajoutez de la vanille, de la cannelle, de la cardamome, un clou de girofle. En Martinique, on appelle ce breuvage le chocolat de communion. Pour Cora, c'est une Madeleine de Proust.
Et c'est une excellente idée. Merci beaucoup, Marie-Luce. De C'est la France à C'est une chanson, avec notre semaine spéciale dédiée aux chansons de Jacques Brel. Frédéric Pommier a remixé pour nous certaines de ses chroniques. Et aujourd'hui, nous réécoutons son entretien avec la comédienne Brigitte Fosset. Elle avait choisi d'évoquer un titre de 1962, Le Plat Pays.
Jacques Brel a toujours beaucoup compté, depuis mon enfance jusqu'à nos jours. Parce que d'abord, je me sens très proche de lui dans la mesure où je suis du Nord et où tous les week-ends, on allait en Belgique au bord de la mer déchaînée, et que dans sa violence, dans son élan, dans son côté par moments rabelaisien, par exemple Amsterdam, pour moi, c'est une des plus belles chansons françaises. Et je l'ai vu, c'est le premier chanteur que j'ai vu à l'âge de 12 ans à Annecy. J'étais au premier rang et... il pleurait, il chantait, il riait. J'ai trouvé que c'était un très grand acteur en même temps.
C'est vos parents qui vous ont fait découvrir Jacques Brel ?
Mes parents avaient une passion pour la chanson française, donc ça a bercé toute mon enfance à la radio. Ma première chanson, c'était « Quand il me tient dans ses bras » d'Edith Piaf. Et puis, il y a eu toutes les chansons de Charles Trenet. C'était la vie quotidienne, ça. Il y avait beaucoup de fantaisie à la maison. Et puis il y avait aussi évidemment le tango compartito. Pam param, pam 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 param, param. Et j'adore ça chez Jacques Brel. Il y a les taureaux s'ennuient le dimanche. Il fait très très bien les tangos aussi, j'adore.
Avec la mer du Nord pour dernier terrain vague et des vagues de dunes. Pour arrêter les vagues et de vagues rochers que les marées dépassent et qui ont à jamais le cœur à marée basse, avec infiniment de brumes à venir, avec le vent de l'est, écoutez-le tenir, le plat pays qui est le mien.
Pour moi, elle réunit toutes les qualités. Le plat pays, c'est mon pays. Je suis née donc dans le Nord et j'adore le Touquet, ce plat pays extraordinaire. C'est ces grandes plages de Belgique qui n'en finissent plus. On allait à Middelkerke, il y avait le vent qui soufflait. Et quand j'ai quitté Tourcoing, j'avais 9 ans et on m'a offert les disques de Jacques Brel et j'écoutais le plat pays en boucle pour retourner là-bas. Et donc, c'est une grande émotion pour moi chaque fois que j'écoute cette chanson, mais en même temps, c'est une connivence, une complicité d'humour. Et avec ma fille, qui, elle, n'est pas née dans le Nord, mais à Paris, mais qui a épousé quand même cet amour du Touquet, puisque toutes les vacances, on y allait. Et donc, chaque fois qu'on arrive là-bas, on chante le plat pays qui est le mien, mais au deuxième degré, c'est très, très amusant. Je suis très sensible aux arrangements qu'il y a dans les chansons et je trouve que l'arrangement est merveilleux parce qu'on entend le vent et on a un peu la sensation d'être sur la plage et qu'il y a les herbes des dunes qui se penchent et qu'on est dans les grandes marées et qu'on part à l'infini et que les sentiments doivent être en accord avec ça. Et c'est un côté un peu moyenâgeux en même temps. Parce qu'on parle de la campagne, quand les fiches de novembre vous reviennent en mai... quand la plaine est fumante et tremble sous juillet, c'est extraordinaire de dire fumante. Ça veut dire tout simplement qu'il y a la brume du beau temps qui est extrêmement rare là-bas, mais que ça trouble un peu la vision. Donc c'est comme un film en même temps, on y va vraiment.
Avec un ciel si bas.
Avec un ciel si
qu'un
bas.
Canal s'est perdu,
qu'un canal s'est perdu.
Avec un ciel si
avec
bas.
Avec un ciel si bas.
Qu'il
fait l'humilité.
Avec un ciel,
avec un
si,
ciel
gris,
si gris.
Qu'un canal s'est pendu.
Avec un ciel, avec un si, ciel gris, si gris.
Qu'il faut lui, qu'il faut pardonner, lui pardonner.
Avec le vent du nord qui vient s'écarteler.
Qui vient s'écarteler. Avec le vent du nord. Écoutez-le.
C'est à 9 ans que vous avez quitté ce plat pays.
Oui.
Et il vous a beaucoup manqué?
Oui, il m'a beaucoup manqué. J'y retourne souvent, même pour 2 jours, quand je suis en relâche au théâtre, pour aller voir le vent, pour aller renifler la mer, parce que c'est ma racine, comprenez? Ma racine, c'est le vent. Et le vent, c'est la liberté. Et le vent du Nord, même s'il est froid, ça vaut la peine de le connaître. Ce qu'il y a de miraculeux dans cette chanson, c'est que c'est à la fois tendresse, passion, nostalgie et présent, et un petit instant d'éternité.
Le plat pays qui est le mien.
Brigitte Fossé au micro de Frédéric Pommier, interview qu'on avait déjà pu entendre une première fois en septembre 2023.